Nous sommes dans le studio en compagnie de Claude Vadaz, le directeur du festival Oisem l'accordéon, qui revient donc de Hanoï, où a été créé, sur le pont Longbienne, une œuvre originale de Christophe H. pour orchestre d'accordéon franco-vietnamien et section rythmique. Cette section était composée donc de Christophe H., Charles Duchever et Jérémy Théanois. Alors Claude Vadaz, on vous connaît comme auteur-compositeur-interprète. On aime bien votre dernier disque, Les Filochards, dont vous avez d'ailleurs interprété quelques chansons ici même. Mais Claude Vadaz et le Vietnam, on n'y avait pas pensé. Alors de Oisem à Hanoï, la route est longue.
Oui, elle est longue, elle a été courte aussi, puisqu'en fait, moi, j'y avais pas pensé spécialement non plus. Mais les hasards ont fait que notre président de l'association, un père qui a vécu de 80 à 87 au Vietnam en tant que envoyé spécial, journaliste de l'Humanité, et qu'il a connu évidemment beaucoup de monde là-bas, qu'il y vit encore en partie, et qu'il était, il y a encore peu de temps, le compagnon d'une Vietnamienne qui a créé le festival Longbienne des Arts, donc pour promouvoir la mémoire et aussi la réhabilitation de ce pont qui est fort endommagé, et dont le président Chirac, à la fin de son dernier mandat, avait promis la réfection en moyennant une participation de 60 millions d'euros. Alors, en espérant que cette promesse présidentielle soit tenue par le successeur, ou le successeur du successeur, il lui a semblé important de rappeler à Hanoï et au Vietnam que ce pont était très important. Et effectivement, il l'est, puisqu'il a couvert un siècle mouvementé de l'histoire vietnamienne.
Alors, il ressemble à quoi ce pont? Pourquoi il est si important?
Alors, d'abord, c'est le premier pont sur le fleuve Rouge, qui a été donc construit par les Français, un ouvrage de Gustave Eiffel. Donc
dans les années 1880.
Oui, à la fin du 19e. C'est un pont de 2 km, donc le fleuve Rouge est gigantesque. Il est important parce que bon, il a représenté un des bâtiments importants d'occupation coloniale française, mais par la suite, ça a été aussi un symbole de résistance du peuple vietnamien contre les Français, puis contre les Américains. Il a subi quelques bombardements des Américains. Il y a des trous dans ce pont. Enfin, ils ont été refaits, mais comme c'est un pont de Gustave Eiffel, il y a la fameuse ferraille typique. Il y a plein d'endroits où il n'y en a plus. Et puis bon, il a bien vieilli. Mais donc il a traversé les drames et les joies du peuple vietnamien.
C'est un peu le symbole de son histoire. Donc.
Voilà, exactement. Et donc, bon, c'était un thème très fort. Et donc moi, j'arrive un peu là-dessus, quelques mois avant ce premier festival qui a lieu en 2009. Et j'apprends donc qu'il y a ce festival. Donc mon président se dit ce serait bien d'essayer d'aller y faire quelques prestations, notamment l'accordéon, c'est la France, etc. Et puis bon, je commençais à me mettre en cheville avec son père, et puis finalement j'ai réussi à y aller sans les musiciens en 2009 grâce à une bourse de la région. Et puis là, j'ai rencontré les classes d'accordéon du Conservatoire National du Vietnam qui sont à Hanoï. Et puis on a commencé à mailler avec le conservatoire, le festival, et puis en venant en France, j'ai commencé aussi à essayer de trouver des moyens pour y aller. Et j'ai réussi donc à emmener, un an plus tard, 4 musiciens et un ingénieur du son pour faire cette création, pour faire des concerts de jazz.
Voilà. En tout cas, c'est un beau projet. Alors, ça a commencé presque comme une histoire de famille, cette belle histoire du président, dont le père, etc., avait une histoire avec le Vietnam. Mais vous avez aussi étendu ce projet à un projet transfrontalier, puisque vous avez travaillé avec la Wallonie et Bruxelles aussi.
Oui, puisque en fait, l'accordéoniste maison de Oisem l'accordéon n'est pas lillois, il est belge, il est bruxellois. C'est un jeune accordéoniste qu'on a découvert il y a un an et demi, deux ans, on a produit un album, un duo, qui s'appelle le duo Terrain Deal, Alexis Terrain, guitariste, et Thibaut Deal, accordéoniste. Et Thibaut Deal est un jeune virtuose de 23 ans, qui est un futur Galliano, qui joue très très bien, qui a eu le prix Tout Style Mans l'année dernière à Bruxelles, et qui est un peu, on l'emmène dans nos valises, puisque évidemment, pour l'accordéon, c'est vraiment un éminent représentant. On est allé au Québec aussi avec lui déjà. Et donc là, évidemment, c'était notre soliste.
Il y avait une évidence.
Voilà. Et du coup, il y a la Wallonie Bruxelles International qui est rentré dans le jeu, puisqu'ils l'ont soutenu aussi son déplacement.
Ouais, donc du coup, ça fait un projet à plusieurs, plusieurs facettes.
Oui, oui.
La région Nord-Pas-de-Calais entretient des rapports privilégiés avec le Vietnam.
Elle entretenait.
C'est ça,
en fait,
c'est fini.
Elle a soutenu un festival de Hue, donc ancienne capitale historique du Vietnam.
Il y avait Sirkoum qui était parti.
Sirkoum oui. qui est parti, qui est encore allé une dernière fois l'année dernière, mais enfin c'était un peu la queue du programme. Oui, en fait, le programme s'est arrêté. La région a décidé de ne plus soutenir l'échange bilatéral avec cette région du Vietnam, et c'est dommage.
Bah, c'est fort dommage, mais vous allez reprendre le flambeau finalement.
Bah, espérons-le.
On espère. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir un tout petit peu aux origines de Wasem l'accordéon, qui est finalement la pierre de touche de cette nouvelle coopération avec le Vietnam?
Évidemment, donc le thème, l'entrée par rapport à ce festival et cette collaboration, c'est l'accordéon. Il y a de l'accordéon au Vietnam, il y a de l'accordéon quasiment dans le monde entier. Et là-bas, en tout cas, il est enseigné, contrairement à chez nous, où il n'est pas évident de trouver l'enseignement de l'accordéon dans les conservatoires. Il y en a quelques-uns, mais ça c'est rare. Si l'accordéon est toujours considéré comme un instrument qui sent un peu trop la frite, et, tandis que là-bas, évidemment, non. Et, il est enseigné dans tous les conservatoires, et il y a une trentaine d'accordéonistes, jeunes accordéonistes, qui apprennent l'accordéon au Vietnam.
30, donc, ça fait pas beaucoup tout de même.
Oui, mais bon, c'est un conservatoire, il y a peut-être, je sais pas, 150-200 élèves.
Oui, c'est ça, c'est tout petit. Mais...
Donc ça fait quand même une partie sensible.
Est-ce que l'accordéon est le même? Est-ce que l'instrument est le même que le nôtre?
C'est plutôt des accordéons touche piano, à 95%. Il y a quelques boutons, mais c'est plutôt piano. Ouais, c'est un peu l'accordéon qui est utilisé à l'Est.
Oui, c'est ça,
c'est
en Russie,
chez les Russes,
etc.
Et chez les Chinois.
Ce qui est logique.
Il y en a quelques... Oui, ce qui est logique.
Géographiquement, ça descend.
Mais il y avait notamment la soliste qui a interprété l'œuvre avec nous. Elle a travaillé en Angleterre pendant 3 ans. Et elle est passée de l'accordéon touche piano à l'accordéon bouton.
Ça doit être dur, ça.
Ça doit être dur. Ouais.
Bon, enfin,
ça se débrouille bien.
Et l'accordéon, ça symbolise quoi pour les Vietnamiens? C'est un instrument universel? C'est typiquement français?
Non, c'est un instrument universel, oui, vraiment. Hein, encore une fois, comme à Moscou, à Pékin, l'accordéon est un instrument comme les autres. Après, il y a la touche française qui a marqué, évidemment, l'occupation coloniale d'à peu près un siècle des Français, qui est encore dans certaines mémoires, mais la population du Vietnam... à 50% à moins de 25 ans, donc aujourd'hui les vieux qui parlent français, il y en a très peu.
Mais c'est ça, le musette, ça leur dit plus
donc,
rien.
Donc voilà, c'est peut-être dans l'inconscient collectif, mais c'est plus vraiment là. À Hanoï, c'est une ville qui est très marquée par l'architecture coloniale, et donc ça porte aussi du charme à cette ville. Donc je pense que de façon un peu subliminale, la culture française est encore infusée. Mais c'est pas manifeste.
Oui, bien sûr. Alors justement, c'est votre deuxième séjour à Hanoï, vous l'avez dit tout à l'heure. Quels sont vos rapports avec cette ville?
En fait, c'est mon troisième parce que j'ai dû retourner entre novembre octobre 2009 et octobre 2010, l'année des 1000 ans. J'ai dû retourner au mois de juin pour mailler les choses sur le terrain parce que c'est vraiment un pays de transition, on va dire, traditionnel, si je puis employer ce pléonasme. Et donc, tout se fait verbalement par mail, c'est pas la peine. Donc, il a fallu...
Mais toute l'Asie, c'est comme ça.
Oui, oui.
Ils ont besoin de vous voir, en fait, de discuter avec vous. Si vous n'êtes pas là, vous n'existez pas.
Donc voilà, il a fallu y retourner, et encore heureux, parce qu'il y a encore eu des péripéties, mais j'y reviendrai après, peut-être. Mais donc j'y suis allé 3 fois, et donc Hanoï, moi, m'a complètement enthousiasmé. Et d'ailleurs, j'en ai écrit une chanson.
Et justement, ça commence comment, la chanson?
Voir Hanoï, ça vous change la vue d'un homme. Et oui, parce que on arrive là-bas. Moi, j'avais jamais mis les pieds en Asie, donc on sort de l'avion, on est pris par la chaleur tropicale. À 6h on arrive à 6h du matin. La ville est déjà complètement vivante. Ça bouge partout. Les fameuses motorbikes, comme ils disent, les deux roues sont omniprésentes. Des nuées de deux roues qui traversent et qui roulent dans tous les sens. Il faut avoir les yeux derrière la tête. Et puis donc cette vie extraordinaire, à 6h du matin, on est pris par ça, on est petite occidentale qui arrive comme ça.
On reçoit une claque, quoi, déjà.
Une grosse claque, mais bonne claque. En même temps, une énergie, sans souriant, des gens jeunes.
Ça, c'est important, la jeunesse d'un pays.
Ouais. En tout cas, là, la différence est flagrante. Hein, si on est un pays de vieux à côté de, ça c'est clair. Donc voilà, tout ça fait que ça fout la patate. Et puis la ville est belle, la ville est... Et puis bon, l'exotisme, on découvre quoi.
Alors vous avez dit tout à l'heure que l'architecture était coloniale. Ça ressemble à quoi une rue de Hanoï?
Enfin, une partie, hein. C'est oui. l'ancien quartier français, hein, comme on appelle le quartier français. Donc des bâtiments coloniaux type 19e.
Mais un peu haussmanniens, un peu.
Voilà, mais qui très vite ont été remâchés par des architectes de là-bas, qui sont assimilés un peu l'architecture française avec les canons vietnamiens, en tout cas asiatiques, et donc il y a une évolution. Et puis aussi la vieille ville, dont il ne reste pas grand-chose, parce que c'est une ville qui a été détruite plusieurs fois dans son histoire. Alors, il ne faisait pas de quartier, hein, le nouveau maître écrabouillait la ville. Mais donc il reste quand même la vieille ville. Alors je ne suis pas spécialiste d'histoire de Hanoï, mais qui est très, très, très... très charmant, des petites rues, des petites échoppes. Ce qui est très particulier, c'est que à 11h, tout est fermé. Ça, c'est la loi. Et donc, cette vie qui commence à grouiller dès 5h30 du matin, à 6h dans les rues. Et donc, dans cette vieille ville qui est très, très petite, les trottoirs sont jonchés d'artisans et de marchands de toutes sortes. Et puis, à 10h30, tout le monde rentre comme une fourmilière. Et il n'y a plus rien dans la rue, il n'y a plus de lumière. Sauf dans quelques petites rues qui se sont un peu spécialisées dans l'accueil d'occidentaux. Et encore, c'est très récent, même en un an, j'ai vu la différence. Et donc ça, c'est très surprenant aussi. Une ville qui passe de la vie grouillante au sommeil total et qui se vide complètement. Et ça, c'est aussi c'est un choc. Et voilà.
C'est peut-être l'habitude du couvre-feu, quelque part.
Peut-être. En tout cas, voilà, ça reste un pays autoritaire, à la chinoise. Voilà, c'est des façons de fonctionner qui ne sont pas les nôtres.
On mange quoi?
Alors on mange, évidemment, on n'est pas trop dépaysé parce que ici les restaurants vietnamiens...
Mais c'est les vrais, c'est la même chose,
on mange. Oui, il y a beaucoup de ressemblances. Après, il y a des choses qu'on ne trouve pas chez nous, qu'on trouve là-bas. Ils mangent tout, de toute façon.
Les sauterelles.
Oui, sauterelles, les crapauds et tout. Enfin bref. Et du chien aussi, du chien laqué. Des moments, on se balade. Une des premières images, quand je suis sorti de l'aéroport, c'est sur une des mobilettes, là. Il y avait derrière le porte-bagages. Leur porte-bagages, c'est carrément des camions, hein. Parfois c'est comme des fourmis, hein. Ça fait 3 mètres de haut, et bon, bref. Et là il y avait donc de la viande. En m'approchant, je me dis, mais c'est quoi comme bestiole ça? Je sais pas, c'est des cochonnets? Non, c'était des chiens, 3 chiens laqués, ficelés comme ça, ils allaient les emporter au marché.
Et ça donc, commence bien quand on arrive.
Bon, bah voilà, c'est pas les mêmes idées. Tout.
Non, c'est sûr. Et vous avez goûté le chien?
Non, je n'ai pas du tout envie de manger du chien. Mais ils n'en mangent pas beaucoup aussi dans certains quartiers. Et donc voilà, il y a sans doute quelques-uns qui sont friands de ça. Mais en tout cas, ça ne choque pas, évidemment.
Ah bah, ça, c'est
mais
sûr.
On mange bien, on mange très bien. Après, il faut faire plein de restaurants pour savoir les bonnes adresses.
Bah, c'est tout le charme du voyage.
Ouais.
Alors, que s'est-il passé finalement lors de ces fêtes du millénaire à Hanoï?
Bon, d'aucuns disent, j'en ai, comme le directeur du Centre culturel français qui discutait, qui connaît forcément bien la situation, m'a dit, bon, il y en a qui les critiquent, qui disent que c'est une façon de célébrer un peu le régime.
Oui, un peu à la communiste.
Le Milan, en fait, bon, c'est un peu arbitraire, c'est que c'est l'occasion de faire une grande fête, parce que c'est la fin d'un programme, d'un plan, ils vont faire des nouvelles élections internes dans 3-4 mois, donc voilà, bon. En tout cas... Ce sont des célébrations
très politiques,
très politiques, à grande échelle, avec défilés militaires et tout, enfin la totale, le feu d'artifice. Et... Nous, on n'a pas vraiment beaucoup participé proprement au millénaire, parce qu'on a intervenu dans un autre cadre, qui était le Long Bien Festival, et donc la création. On avait pas mal de boulot entre les répétitions, les masterclass que faisait Thibaud Dill, et les représentations qu'on a faites. Donc on a vu ça un peu par la bande, on est un peu sorti. Je suis pas évidemment allé voir les militaires défiler, mais en termes d'affluence, cette ville qui déjà grouille par l'habitude était encore plus saturée, et notamment par plein de d'arrivants qui venaient des provinces. Et ce qui était marrant pour nous, c'est qu'il y en a plein qui avaient jamais vu d'occidentaux, et dans la rue, on nous faisait des signes, on nous demandait parfois d'être pris en photo.
Ils vous touchaient pas?
Non, pas quand pas même trop. Pas, mais enfin voilà, donc ça faisait
ça peut arriver.
Une ambiance un peu spéciale. Et puis voilà, beaucoup, beaucoup de monde. Et
oui,
puis,
enfin, la fête, quoi. Ouais. Alors, comment vous avez travaillé, on l'évoquait tout à l'heure, avec vos partenaires vietnamiens pour monter le projet, mais de manière efficace? Parce que, bon, alors déjà, il faut aller les voir, on est dans leur bureau, alors comment ça se passe?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est déjà qu'il y a eu un gros hiatus, c'est que le Festival Long Bien n'a pas eu lieu. Parce que le Festival Long Bien, qui est donc censé brouwer ce pont et tout, à cause des 1000 ans, les autorités ont considéré in fine que c'était pas le bon moment et qu'ils pourraient pas assurer la sécurité, donc tout simplement on dit niet. Et donc l'organisatrice, qui n'a évidemment pas le pouvoir d'influencer le comité populaire, a dû s'incliner, nous avec. Mais enfin, comme on avait déjà... Moi j'avais un peu pris les devants parce que je savais que cette organisatrice avait des moyens limités, à la fois financiers et politiques. Donc j'avais un peu balisé le terrain en allant voir le Centre culturel français, de telle sorte que cette création soit faite en dur, puisqu'on devait la faire sur un train qui traverse le pont, depuis la gare centrale de Hanoï jusqu'à l'autre rive. Donc j'avais un peu pris les devants en allant voir déjà le Centre culturel français pour qu'on fasse une représentation déjà en sédentaire dans l'auditorium, plus un concert de jazz. On a doublé ça dans l'auditorium du conservatoire, ce qui fait que nous on a rempli notre programme, mais on n'a pas pu faire ce qui au départ était l'argument principal.
Et donc vous n'avez pas pris le train?
On n'a pas pris le train.
Ah non. Bah zut, je m'attendais à ce que justement vous me racontiez ça, parce que...
Ben non, on a refait, j'ai refait le chemin avec les musiciens à pied pour leur faire voir ce à quoi on avait échappé. Alors l'organisatrice, c'était marrant parce que ça aussi c'est un fonctionnement qui peut pas exister chez nous. La veille du départ, elle m'appelle, est-ce que vous pouvez venir 2 mois plus tard? Vous oubliez tout était... J'ai dit, non, ça va être difficile. Voilà.
Oui, non, mais ça, ils peuvent rebondir facilement, mais nous, on ne peut pas. Alors, le choix du compositeur, Christophe H., ça s'est fait comment?
Christophe, on a travaillé avec lui déjà depuis 2007, en lui commandant une œuvre, 3 années successives, une œuvre pour orchestre d'harmonie et accordéon, en travaillant avec Amanda Fanfare, Hervé Brice. Et on a donc on a cette œuvre qu'on lui a commandée pour Long Bien, c'est la 4e œuvre en fait, la 4e commande qu'on lui fait. Donc j'ai pris l'habitude d'apprécier à la fois ses qualités et de compositeur et sa capacité à travailler, à rendre sa copie dans les temps, ce qui était indispensable. Là, par exemple, il fallait envoyer le score complet 1 mois avant pour que les musiciens puissent travailler. Ce qui fait que quand on est arrivé, ça a été surtout la direction de Christophe qui a donné un peu de vie plus spécifique à l'œuvre, mais qui était déjà dans les doigts des musiciens.
On peut dire que Christophe H est en résidence à Oisem l'accordéon, quelque sorte.
Oui, enfin, si vous bien accepter le terme, je suis OK avec ça. Ouais.
On va écouter peut-être un extrait de cette composition qui a bien comme titre « Sur le pont Long Bien ».
Oui, c'est une œuvre courte. Et en fait, on l'a faite délibérément courte parce qu'elle était censée être jouée sur un train.
Et qui donc, faisait 4 minutes la traversée.
Non, mais c'est-à-dire que forcément, un train, on ne peut pas voir le début et la fin. Donc, c'était un principe d'une œuvre avec un thème évolutif, mais un peu comme le boléro de Ravel. C'est un peu le mot-clé que je lui ai donné. De telle sorte que quand on voit passer le train... On ne perd pas l'essentiel, c'est-à-dire que mais avec quand même l'idée qu'on est sur un train et que ça évolue un peu, et puis aussi avec tout ce qu'il y a derrière, la France, la valse, l'accordéon, et puis un peu de gamme pentatonique pour mixer les
couleurs locales, un petit peu Debussy. Alors on y va.
Thank you.
Alors donc on écoutait Sur le pont Longbienne donc de Christophe H qui a été créé à Hanoï le 10 octobre dernier. Alors quelle a été la réaction à cette musique d'abord des musiciens vietnamiens qui ont dû la travailler et puis ensuite celle du public?
La réaction était très bonne. En fait, les musiciens aiment beaucoup cette œuvre. Le professeur, donc, qui était venu aussi au mois de mai, me l'a dit à plusieurs reprises. Ils ont beaucoup aimé, c'est pour la plupart des jeunes musiciens qui ont entre 15 et 18 ans. Ils ont beaucoup aimé toute cette aventure parce qu'on était avec eux toute la journée, presque tous les jours, pour travailler cette œuvre. Et ils l'ont fait avec enthousiasme et je pense un réel intérêt. Et en tout cas, ça s'est senti dans l'exécution. Elle était très bien perçue, et on a eu que des compliments, je pense pas que ce soit hypocrite.
Donc finalement, si vous deviez faire un bilan de cette opération, c'est positif sur toute la ligne?
Oui, c'est positif, tout à fait, oui, on souhaite évidemment que ça prenne encore d'autres prolongements, et ils vont venir sans doute au mois de mai au festival, enfin, ils seront pas à venir les 25 musiciens, mais... peut-être deux ou trois, et puis notamment il y a en fait cette œuvre a été créée pour deux solistes. On l'entend pas bien, c'est une mise à plat. Il faudrait la mixer mieux, mais il y a deux solistes qui se font un peu du chasing en anglais, c'est-à-dire qu'ils se font du question-réponse et c'est deux super solistes, donc Thibaut Dill et Ling Quing Chang qui va sans doute venir au mois de mai interpréter cette œuvre entre autres.
Bien pour le vietnamien, les accordéonistes ont appris un peu plus l'accordéon et vous avez appris un peu de vietnamien. Donc Claude Vadaz, merci. Donc on vous retrouve à bientôt à Oisem pour le festival en 2011, avant la prochaine aventure vietnamienne qu'on espère pérenne finalement. Ce bel échange entre Oisem et Hanoï ne pourrait que continuer. Ce serait bien pour, je pense, pour nous évidemment, et puis peut-être aussi pour Hanoï.
C'était de Oisem à Hanoï, une émission de Françoise Aubjoie, montage René Lavergne.